La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Raison et raison est un texte de l'après-guerre où Maritain pense une nouvelle approche de Dieu et aussi définit la connaissance humaine. Qu'est-ce que la connaissance humaine ? Comment connaissons-nous ? Si nous avons passé les deux semaines précédentes à relire le texte « Une nouvelle approche de Dieu » dans « Raison et raison » écrit en 1945, il y a aussi au premier chapitre un retour sur la connaissance humaine. C'est une réflexion majeure. Majeure non seulement pour Maritain, qui en 1924 écrira « Réflexion sur l'intelligence », mais majeur aussi pour le Collège de France et pour Claudine Tiercelin qui définit en 2018, lors d'un congrès sur la connaissance en métaphysique, finalement la métaphysique comme ce qui ne peut pas être défini mais qui a besoin d'exister, d'être là. On a toujours besoin d'un indémontrable et cette défense de la métaphysique, finalement, est assez juste. Voyons comment on peut faire concorder Maritain et Claudine Tiercelin qui ne viennent pas du tout du même horizon philosophique. Et pour cela, je vous propose de revenir sur les trois fondamentaux que nous avions décelés au mois de novembre dans les textes de Maritain, à savoir la science, la métaphysique comme science, le sens commun et la relation philosophie-théologie. Pour Maritain, la connaissance est la base. Comment l'intelligence connaît-elle ? Maritain, pour reprendre exactement le fil de notre réflexion, engage le dialogue avec les existentialistes et il écrit que la tragédie des philosophes qui s'appellent existentialistes, qu'ils soient existentialistes chrétiens comme Gabriel Marcel ou athées, comme les disciples français de Husserl et de Heidegger, c'est qu'ils ont le sentiment ou l'intuition de la primauté de l'être, de l'existence, et qu'en même temps, ils refusent toute valeur à l'idée de l'être, sous prétexte qu'elle est abstraite, de sorte qu'ils n'y voient qu'un mot, et pensent qu'elle ne nous offre qu'un clavier muet. Si je suis thomiste, au contraire, c'est parce qu'en définitive, j'ai compris que l'intelligence voit et qu'elle est faite pour l'être, dans sa plus parfaite fonction, qui n'est pas de fabriquer des idées, mais de juger. Elle se saisit de l'existence exercée par les choses. Et du même coup, elle forme la première de ses idées, l'idée de l'être, que la métaphysique dégagera dans sa lumière propre, au plus haut degré de visualisation abstractive. Maintenant, nous pouvons donc comprendre comment les diverses catégories typiques de connaissances, se distribuant sur des plans d'intelligibilité différents, sont distinctes entre elles, solidaires, mais essentiellement distinctes. Nous pouvons comprendre comment la science des phénomènes de la nature, avec son analyse empiriologique du réel, les mathématiques, la philosophie de la nature, la métaphysique, forment les degrés naturels de la connaissance spéculative, au-dessus desquels une place est encore possible pour une science plus haute, la théologie, connaissance rationnelle dont les principes ne sont pas les évidences naturelles de la raison, mais les données suprarationnelles dont la foi nous met en possession. Nous pouvons comprendre que ces diverses disciplines de connaissance ne sauraient se substituer l'une à l'autre, ni entrer en compétition, parce qu'elles ne chassent pas sur le même terrain et appliquent leurs lumières diverses à des champs objectifs différents. La physique, la chimie, la biologie pourront progresser indéfiniment, chacune à son plan, dans la connaissance de l'être humain par exemple, sans jamais rencontrer les questions et les réponses propres à la connaissance philosophique de ce même être humain, qui se tiennent sur un autre plan. Si un biologiste est amené à se poser ces questions en réfléchissant sur sa science, c'est qu'alors il n'est plus seulement biologiste mais philosophe aussi, et il aura à recourir aux instruments de la philosophie pour y répondre convenablement. nous pouvons avancer sans fin dans la connaissance de l'appareil oculaire et des centres nerveux de la vision, la question « qu'est-ce que la sensation ?» relèvera toujours de notre ordre. Nous pouvons avancer sans fin dans la connaissance du chimiste et du chimisme de l'être humain, ou de sa physiologie, ou même de sa psychologie empiriquement considérée et interprétée, la question « l'homme a-t-il une âme spirituelle ?» relèvera toujours de notre ordre de connaissance. Nous pensons tous à Zola, qui écrit « Je n'ai pas trouvé l'âme humaine sous mon scalpel ». En se référant à Claude Bernard, Zola est le chef de file du naturalisme dans le roman français de la fin du XIXe siècle, et d'un naturalisme qui se fonde finalement sur l'influence du milieu et de la génétique pour expliquer l'homme. Et ces deux influences qui se croisent disent la totalité de l'homme, et Zola dira non, je n'ai pas trouvé d'âme sous mon scalpel, en reprenant une posture de biologiste, puisque son modèle restera Claude Bernard. Ici, c'était un mélange, finalement, des plans, et là, avec Maritain, un distingué des plans, pour mieux les unir. Du coup, on revient à un autre invariant, c'est celui de la science, puisque Maritain, ici, dans ses degrés du savoir qu'il vient de résumer, va, vous le comprenez, parler de la subalternation des disciplines. Elles vont avoir un degré de plus en plus profond d'universalité, et la reine des sciences, la science des sciences, sera la métaphysique, parce qu'elle parle de l'universel. Maritain reprendra à la suite d'Aristote l'idée selon laquelle, par exemple, l'histoire n'est pas une science parce qu'elle s'attache au particulier, et donc elle peut se perdre dans l'infini. On n'a jamais fini de contextualiser. On peut dire, là, dans le studio de la radio, il y a un siège vert et une fenêtre verte, une table noire, et puis ce noir, il a été fabriqué par telle usine de peinture, etc. Et puis l'usine de peinture, elle existe depuis 1920, etc. Et donc on s'émiette dans le particularisme, et pour Maritain, comme pour Aristote, ce n'est pas une science. La reine des sciences est celle qui a atteint l'universel. Maritain, finalement, dans cette connaissance humaine, va insister, vous l'avez compris, sur le devenir. C'est ce qu'on appelle l'intentionnalité. On devient la chose que l'on connaît. Et ce n'est pas du tout une manière transitive de connaître, où la tentation de la transitivité, c'est de produire un savoir. Pour le faire bref, je dirais, c'est la différence entre avoir et être. Voilà, mais dans cet acte de devenir, vous le comprenez, il y a un autre élément que celui de être, c'est celui d'une sorte de dynamisme, d'un mouvement un peu performatif, toujours vivant. Et je pense qu'il faut garder à l'oreille cette idée de vie qu'on a vue la semaine dernière pour la saisie de l'existence. Et dans l'acte de connaissance, c'est la même chose, sinon on prête le flanc à une critique dualiste, qui va dire non, ben non, vous mettez un présupposé, vous avez un préjugé, vous entrez dans un cercle, vous n'en sortez pas. Voilà. Maritain va poursuivre cette réflexion en disant finalement ce qu'est la connaissance pour Thomas. Connaître pour saint Thomas ne consiste ni à recevoir une empreinte ni à produire une image, on pense à Descartes. C'est quelque chose de bien plus intime et bien plus profond. Connaître, c'est devenir. Devenir le non-moi. Est-ce donc perdre son être et s'absorber dans la chose? Telle serait peut-être, à la limite, l'intuition bergsonienne. Telle n'est certes pas l'intellection thomiste. Aussi bien aucune sorte d'union ou de transformation matérielle ne peut-elle atteindre au degré d'union du connaissant et du connu. Si je perdais mon être en autrui pour m'unir à lui, je ne deviendrais pas autrui. Lui et moi, nous ferions ensemble un composé, un tertium quid, c'est-à-dire un tiers. Au lieu que le connaissant devient le connu lui-même, l'union du connaissant au connu est ainsi une véritable unité. Ils sont plus un que la matière et la forme jointes ensemble. Et Maritain va encore plus loin. Vous le voyez, quand on parle d'union et pas de fusion, il y a une dimension très spirituelle que nous avons de manière quotidienne dans l'Eucharistie. L'union de l'eau et du vin. Et cette union de l'eau et du vin est à l'image, finalement, de, ça va lui servir de métaphore, puisqu'au paragraphe suivant, il utilise le mot transsubstantiation. Mais poser une telle transsubstantiation entre deux termes qui conservent pourtant chacun leur être propre, car je reste ce que je suis et la chose reste ce qu'elle est tandis que je la connais, c'est dire qu'il s'agit là d'un devenir immatériel, d'une identification immatérielle et que la connaissance est fonction de l'immatérialité. Connaître consiste donc à devenir immatériellement l'autre en tant qu'autre. Ainsi, dès le principe, Thomas d'Aquin pose la connaissance dans une dépendance absolue à l'égard de ce qui est. Connaître, en effet, c'est essentiellement connaître quelque chose, et quelque chose qui, en tant même que spécificateur de mon acte de connaître, n'est pas produit par ma connaissance, mais la mesure, au contraire, est la règle, et donc possède son être à soi indépendant d'elle, car il serait absurde que la mesure fût comme telle dans la dépendance du mesuré. Loin que l'objet de connaissance soit, comme le veut Kant, intrinsèquement constitué par la pensée et autre chose que ce qui est, il faut qu'il soit, en tant même qu'objet connu, cela même qu'une chose est, une chose autre que moi, et que mon activité subjective, une chose prise précisément dans son altérité, dans ce qu'elle a d'elle-même et de non-moi. Toute la spécification de mon acte d'intelligence vient donc de l'objet en tant qu'autre, en tant que pur de moi-même. En connaissant, je me subordonne à un être indépendant de moi, je me fais vaincre, convaincre, assujettir par lui. Et la vérité de mon esprit est sa conformité avec ce qui est hors de lui et indépendant de lui. Voilà le réalisme et l'objectivisme foncier de la philosophie thomiste.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Pourquoi donc la connaissance et la manière dont nous connaissons est-elle si importante dans le recueil Raison et Raison, écrit par Maritain, pour comprendre qu'il y a une nouvelle approche de Dieu? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une attitude finalement de dépendance à l'égard du connu et d'une certaine humilité qui est à l'opposé finalement d'un acte transitif qui va mener à la fabrication totale que va encourager la technocratie par exemple, où l'homme moderne, l'homme actuel, peut tout fabriquer. Il peut même se donner une illusion au moins d'un autre genre, même si cela vient parfois atténuer sa souffrance. Est-ce que c'est souhaitable d'être un Prométhée, comme ça, par rapport à la planète, par rapport à autrui, par rapport à soi-même. Et cette question, même si Maritain utilise parfois un lexique théologique, ne doit pas nous faire croire qu'il mêle théologie et philosophie. C'est parce que c'est un lexique qui est éclairant. Quand il utilise le mot de transsubstantiation, ça parle. Ça parle parce que c'est le mot le plus juste pour exprimer cette intentionnalité de l'acte de connaissance où le sujet devient l'objet, au plan formel, connu. Maritain va aller un peu plus loin parce que c'est cette manière de définir la connaissance selon saint Thomas qui permet finalement de parler de science. Saint Thomas enseigne que si les dispositions subjectives de l'appétit jouent un rôle essentiel dans la connaissance pratique qui règle notre agir, et si elles peuvent intervenir aussi, soit en bien, soit en mal, dans notre connaissance spéculative, cependant celle-ci, c'est-à-dire la connaissance spéculative, lorsqu'elle atteint sa perfection naturelle, c'est-à-dire lorsqu'elle est science, et nous installe en des certitudes rationnelles inébranlable, est en elle-même absolument pure et indépendante de toute considération de ce qui est bon et avantageux pour le sujet. Absolument pure et indépendante de tout contact avec les préférences, convenances et connivences du sentiment ou de l'action. Ici, l'objet seul est maître. Et que la conclusion posée nous fasse de la peine ou nous fasse plaisir, l'intelligence aurait honte d'y faire attention et de se le demander seulement. Elle contemple l'objet, elle est fixée en lui. Est-ce qu'elle sait si le moi existe et demande quelque chose? Si nous avons encore, malgré plus d'un siècle de sentimentalisme, quelque idée de l'objectivité adamantine de la science, c'est à saint Thomas et à la discipline scolastique que nous le devons. Ici, pureté adamantine, vous l'avez retrouvée, c'est toujours la question qui va traverser toute notre année, qui est celle de l'incarnation, c'est-à-dire faire descendre le spirituel dans le temporel, tel est l'enjeu de la philosophie pour Maritain et de l'exister. C'est cet enjeu que vous retrouvez ici. Pour Maritain, le couple nature-culture est inopératoire, il n'existe pas. Parce que la nature de l'homme, c'est d'être un être de la civilisation. C'est d'être un être fait pour la culture. C'est pas cette dichotomie qui traverse les pages de Maritain. La dichotomie, c'est plutôt que nous soyons un pécheur racheté, un pécheur sauvé, mais qui ait eu la blessure de la faute originelle. Et où retrouve-t-on la grâce adamantine? Eh bien, dans la pureté, finalement, de cet acte de connaître. Ça ne veut pas dire que l'acte de connaissance va arriver en dehors de notre marque de pécheur, mais il y a cette recherche de la pureté parce qu'elle est associée à la vérité. Alors, pour terminer notre émission et puis nos trois émissions de ce mois de décembre, avant d'entrer dans deux émissions de débats contradictoires et plus agréables autour des fêtes de fin d'année, je voudrais citer donc un extrait d'une œuvre qui va suivre Raison et Raison, c'est Signification de l'athéisme contemporain. Ça va sembler nous paraître un peu désuet, un peu loin. On est dans le marxisme, on est dans la guerre froide, voilà. Et ce texte, en fait, a une profonde actualité. Voici pourquoi. Maritain se pose la question de comparer le saint et l'athée. Et il dit finalement, qu'est-ce qui va l'emporter? Lequel des deux est le plus radical dans sa contestation de la bêtise ou de la frénésie folle du monde? De l'athée et du saint, lequel des deux est le plus intraitable et le plus entier, le plus dur? Lequel porte le plus profondément la hache à la racine de l'arbre, lequel accomplit la rupture la plus complète et de la plus vaste portée, la rupture la plus radicale? Essayons d'imaginer ce qui se passe dans l'âme d'un saint au moment crucial où il prend sa première décision irrévocable. Représentons-nous saint François d'Assise quand il rejette ses vêtements et paraît nu devant son évêque ou saint Benoît Labre quand il décide de devenir un mendiant pouilleux vagabondant sur les routes. À la racine d'un tel acte, il y a eu quelque chose de si profond dans l'âme qu'on ne sait comment l'exprimer. Disons que c'est un simple refus, non un mouvement de révolte qui est temporaire, ni de désespoir qui est quelque chose de passif, mais plutôt un simple refus, un refus total, stable, suprêmement actif, d'accepter les choses comme elles sont. Ici, il n'est pas question de savoir si les choses et la nature et la figure de ce monde sont bonnes dans leur essence. Oui, elles le sont. L'être est bon dans la mesure même où il est. La grâce parfait la nature et ne la détruit pas. Ces vérités n'ont rien à voir avec l'acte intérieur de rupture que nous considérons. Cet acte a affaire avec un fait existentiel. Les choses comme elles sont ne sont pas tolérables. Elles ne sont décidément pas, positivement pas tolérables. Dans la réalité de l'existence, le monde est infecté de mensonges et d'injustices et de méchanceté, de détresse et de misère. La création a été gâchée par le péché à un tel point que dans le fond du fond de son âme, le saint refuse de l'accepter comme elle est. Le mal, j'entends la puissance du péché et l'universelle souffrance qu'elle entraîne, la pourriture de néant qui ronge par toutes les choses, le mal est tel que la seule chose qu'on ait sous la main pour y remédier et qui enivre le sein de liberté, d'exultation et d'amour est de tout donner, tout abandonner, et la douceur du monde, et ce qui est bon, et ce qui est meilleur, et ce qui est délectable et permis pour être libre d'être avec Dieu. C'est d'être totalement dépouillé et donné afin de se saisir du pouvoir de la croix, c'est de mourir pour ceux qu'il aime. C'est là un éclair d'intuition et de vouloir au-dessus de tout l'ordre de la moralité humaine. Une fois qu'une âme d'homme a été touchée au passage par cette aile brûlante, elle devient partout étrangère. Elle peut tomber amoureuse des choses, jamais elle ne se reposera en elle. Pour racheter la création, le saint fait la guerre à toute la fabrique de la création avec les armes nues de la vérité et de l'amour. Cette guerre commence dans les recets les plus cachés de son âme et de son désir. Elle se terminera avec l'avènement d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux, quand tous les puissants de ce monde auront été humiliés et que tout ce qui est méprisé aura été exalté. Le saint est seul à fouler l'oppressoir et parmi les peuples, il n'est personne avec lui. Il est vraiment donné. Le saint à ce vrai Dieu, le saint est complètement donné. Mais il y a de faux dieux. Même, comme je le dirai dans un instant, il y a une image apocryphe et dénaturée de Dieu qu'on peut appeler le roi ou le Jupiter de tous les faux dieux, le grand dieu des idolâtres. À l'égard de ce Dieu, le saint est un athée intégral, le plus athée des hommes, précisément parce qu'il n'adore que Dieu et pas les faux dieux. Le concept philosophique de Dieu est double. Il y a le vrai Dieu des philosophes et il y a le faux Dieu des philosophes. Le vrai Dieu des philosophes n'est autre que le vrai Dieu lui-même, le Dieu des saints, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, imparfaitement et incoativement connu, connu seulement dans ses attributs naturels. Une telle notion purement rationnelle de Dieu est de fait ouverte au surnaturel. Donc, lutte du saint contre les idoles, y compris l'idole de Dieu. Tournons-nous à présent vers nos athées modernes, nos vrais et réels athées. Qu'est-ce que nous pouvons dire à leur sujet? Je dirais qu'au sens que je viens de marquer, l'athée absolu n'est pas assez athée. Lui aussi, il s'indigne contre le Jupiter de ce monde, le dieu des idolâtres, des puissants et des riches. Lui aussi décide d'en finir avec lui. Mais au lieu de jeter contre ce faux dieu la force du vrai dieu, de se donner lui-même à l'œuvre du vrai dieu, comme fait le saint, l'athée, parce qu'il rejette le vrai dieu, ne peut lutter contre le Jupiter de ce monde qu'en appelant à son aide la force du dieu immanent de l'histoire. Et en se donnant lui-même à l'œuvre de ce Dieu immanent. Dès lors, il est prisonnier de cette immanence. Bonne fête, à bientôt pour des émissions contradictoires avec Jean-Christophe René sur la philosophie réaliste.